Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Alors ce soir, je fais donc l'introduction de notre retraite. Et je vais présenter quelques aspects du mystère de la sagesse, que nous reprendrons bien sûr, dans la suite. Et aussi, je vous donnerai le plan de toutes les différentes interventions que je ferai. Nature de la sagesse. La Bible, comme vous le savez, a recueilli 5 livres de sagesse, qui sont dans l'ordre Job, les Psaumes, les Proverbes, le Coëlète, le Cantique des Cantiques, le Livre de la Sagesse et Ben Sira. Donc la littérature sapientielle tient donc une grande place dans la Sainte Écriture, à côté de la littérature prophétique. Et elle a exercé une influence profonde sur le peuple juif tout au long de son histoire. Ce mouvement est né au sein du judaïsme, ce mouvement qu'on appelle la sagesse. Il est difficile de définir ou de donner une définition rapide de la sagesse. Israël, de même que tous les autres peuples de l'Ancien Orient, a eu de tout temps sa propre sagesse, effort d'observation, d'intelligence des choses de la part de l'esprit humain qui cherche à pénétrer le monde pour le connaître, pour s'y adapter et pour le dominer. La sagesse se présente ainsi sous des aspects très variés. Aucun secteur de la vie individuelle et collective n'échappe à la sagesse. L'amour, la souffrance, la mort, le gouvernement, tout cela fait partie de la sagesse. La sagesse est donc, tout d'abord, on peut quand même définir certains aspects, la sagesse est d'abord la capacité de l'homme, innée, une capacité innée ou acquise, à bien conduire sa vie, et si possible, à être heureux. Le sage cherche à être heureux. La sagesse se manifeste donc par un ensemble de qualités ou d'aptitudes à bien gérer sa vie. On dira qu'est sage l'homme qui a un comportement avisé, par exemple le paysan, qui connaît le rythme des saisons, les travaux qui doivent être accomplis à tel moment. Ce peut être le savoir-faire du navigateur, qui doit avoir des qualités de courage et d'habileté. La sagesse est aussi un savoir-faire. C'est celui des artisans, des forgerons, des tisserands, des menuisiers, des orfèvres. Un savoir-faire qui est né de l'expérience personnelle, de l'observation, des comportements, des animaux, de l'homme ou des lois de la nature. La sagesse se présente donc comme un savoir orienté vers le comportement, l'art de conduire sa vie dans la prudence, avec prudence. Elle est en même temps orientée vers une certaine acquisition du bonheur. Ce serait la troisième qualité de la sagesse. Mais comment trouver le vrai chemin dans ce monde si changeant, si difficile à vivre pour tant de gens qui se sentent impuissants à dominer leur existence, qui se sont accablés par les souffrances, par un destin qui les pousse vers la mort. Dans ce contexte, certains hommes, plus doués, plus forts que les autres, ont tenté de trouver des voies qui pourraient permettre de trouver le bonheur, au moins de mener vers le bonheur. Ils ont eu la patience d'observer longuement les choses, la façon dont les hommes vivaient, afin de pouvoir découvrir des règles, des principes, des comportements qui leur permettraient de vivre au mieux dans ce monde. Quatrièmement, ils ont eu aussi conscience de leurs limites. Ils se sont sentis dépassés dans un univers présent, mais avant eux, et qui leur imposait ses propres lois. Ils ont compris qu'une partie de l'existence leur échappait. Ils ont fait l'expérience d'une très profonde humilité. en Proverbes 21, 31, on lit « On équipe le cheval pour le jour du combat, mais c'est au Seigneur qu'appartient la victoire. L'avenir échappe à tout homme, à tout le monde, à nous. On peut le préparer, l'envisager, mais on ne peut pas le réaliser. L'homme propose et Dieu dispose, disons-nous. » Une formule que nous trouvons aussi dans le Proverbe 16, verset 1. « À l'homme les projets du cœur, mais au Seigneur vient la réponse. » Et en Proverbe 16, 9, « Le cœur de l'homme délibère sur sa voie, mais c'est le Seigneur qui affermit ses pas. » Et comment l'homme comprendrait-il son chemin, dit le Proverbe 20, 24. Cinquièmement, pour avoir oublié que la sagesse est d'abord un don de Dieu, un don que Dieu fait à des hommes imbus d'eux-mêmes et qui font leur propre malheur. Pour avoir oublié cela, bien des hommes imbus d'eux-mêmes ont fait leur propre malheur. Excusez-moi. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, qui s'estiment intelligents. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le vaillant ne se glorifie pas de sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais qui veut se glorifier, qu'il trouve sa gloire en ceci, avoir de l'intelligence et me reconnaître, moi, le Seigneur, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me complaît, oracle du Seigneur, dit Jérémie en 9, 22, 23. La sagesse est donc un don de Dieu. Ils seront confondus, ceux qui mettaient leur sagesse en eux-mêmes, dit le prophète Isaïe. Le Seigneur a dit, citation d'Isaïe, « Parce que ce peuple est près de moi, en parole, et me glorifie de ses lèvres, mais que son cœur est loin de moi, que sa crainte n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Eh bien, voici que je vais continuer à étonner ce peuple par des prodiges et des merveilles. La sagesse des sages se perdra et l'intelligence des intelligents s'envolera. » De son côté, saint Paul a compris cette parole en disant que seul le langage de la croix était la vraie sagesse et qu'en dehors d'elle, ce n'est que folie. Folie pour ceux qui se perdent sans comprendre ce langage de la croix, mais pour ceux qui l'accueillent, la croix du Christ est puissance de Dieu. La vraie sagesse humaine, qui est limitée, doit en fait devoir aboutir à trouver la sagesse de Dieu. Lui seul connaît la sagesse. Elle n'est pas indépendante de son œuvre créatrice. Et vers 200 avant Jésus-Christ, Ben Sira précisera, il n'y a qu'un être sage, un être avec un grand E, très redoutable, quand il siège sur son trône, c'est le Seigneur. C'est lui qui a créé la sagesse, qui l'a vue, qui l'a dénombrée, qu'il a répandu sur toutes ses œuvres, sur toute chair, selon sa largesse, et qu'il l'a distribuée à ceux qu'il aime. Ben Sira, chapitre 1er, versets 8 à 10. En même temps, les sages ne font appel à aucune révélation divine. On ne trouve en effet aucune mention de vision ou d'effusion de l'Esprit de Dieu répandue comme une force divine, d'inspiration ou d'autorité, qui est si fréquente chez les prophètes. Voilà une grande différence avec les prophètes. Dans les livres les plus anciens et les plus récents, la sagesse sera toujours une sagesse humaine. Même si, comme nous venons de le voir, les sages sont convaincus que la sagesse appartient à Dieu. Ils reconnaissent qu'elle est une propriété divine, et que se l'approprier serait attenter à la majesté souveraine. Car Dieu seul connaît le chemin qui reste caché aux yeux de tous les hommes. Personne n'est monté au ciel, ne l'a saisi et ne l'a fait descendre des cieux. Sixièmement, Dieu la communique librement à qui il veut. Et c'est ainsi que Joseph recevra l'Esprit du Seigneur Yahvé. Il surpassera tous les magiciens d'Égypte et donnera l'interprétation des songes, au point que ce don divin de la sagesse a aussi permis aux artisans la construction du tabernacle du temple. Et c'est cette même sagesse qui enseignait aux hommes l'agriculture autrefois. Mais toutefois, ce sera au roi, au conseiller, au juge que Dieu accordera cet esprit qui dépasse une qualité purement humaine. Septièmement, avec le temps, la sagesse prendra une tendance religieuse et morale très accentuée. Et elle deviendra synonyme de piété et de vertu, tandis que la folie symbolisera l'impiété et le vice. Alors les sages deviendront des prédicateurs d'une morale intéressée sans doute, mais profondément religieuse. Ils seront considérés peu à peu comme des hommes de Dieu, mentionnés à côté des prophètes et des divins, remplis de l'Esprit de Dieu, à qui la bouche de Dieu a parlé. La sagesse deviendra alors la crainte de Dieu. Crainte fondée de confiance, fondement de la religion, et elle finira par être identifiée avec l'Esprit même de Dieu. Vous voyez son évolution. Elle est présentée comme le principe actif de la création et du gouvernement du monde. Le rôle qui était auparavant attribué à l'Esprit de Yahvé sera attribué à la sagesse elle-même. Alors la sagesse se dira d'origine divine, de toute éternité. Et on a l'impression, à un certain moment, qu'elle est comme une hypostase. Le grand texte de Proverbe 8 que nous méditerons lui donne une nature quasi divine et éternelle à côté de Dieu. Et pourtant, elle reste une créature. Alors nous verrons ce texte. Yahvé m'a créé, prémisse de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès l'éternité, je fus établi. Dès le principe, avant même l'origine de la terre. Quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes, avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Avant qu'il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde, quand il a fermé les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer, et les eaux n'en franchiront pas le bord, quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés, comme le maître d'œuvre, je faisais ses délices jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence, m'ébattant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Ce texte est très important pour toutes les méditations que nous ferons. Proverbe 8, 22. Ce texte semble donc bien faire de la sagesse la première née des œuvres divines. Elle sera considérée comme un don semblable à la loi et même à l'alliance avec lesquelles elle sera aussi identifiée. Elle gardera toujours le souvenir de son origine humaine. Elle sera en même temps considérée comme l'éducatrice de l'humanité qui ne crée pas, mais qui entretient l'œuvre divine. Et Jésus se présentera comme la vraie sagesse qu'annonçait l'ancienne alliance. Huitièmement, l'universalité de la sagesse. Tous les peuples se sont donné des sages qui ont écrit des sentences. La sagesse n'a pas été le monopole du peuple élu. La Bible reconnaît l'existence de la sagesse d'Égypte, de Babylone, des fils d'Orient. On se souvient que Moïse rivalisait de puissance avec les sages et les magiciens de Pharaon, qui aussi étaient capables de faire les mêmes prodiges. On dit aussi que Salomon surpassait en sagesse tous les fils de l'Orient. Et Job lui-même se trouve dans un milieu étranger, dans le pays de Us. La sagesse se perd donc dans la nuit des temps. Elle se rattache aux premières manifestations de l'esprit humain. Elle se présente comme la science de la tradition qui garde et transmet jalousement dans ses immuables valeurs ce qu'elle a acquis au fur et à mesure du temps. L'effort de l'esprit humain est de chercher à pénétrer la nature de la sagesse afin de découvrir ses secrets. Ceux d'abord de la sagesse créatrice, puis des comportements humains. Les sages se sont orientés vers les vérités de l'expérience humaine, des règles pratiques pour la conduite de la vie et la recherche du bonheur. Ils ont considéré les choses d'ici-bas, mais aussi les réalités à venir. En Égypte, la sagesse est devenue une philosophie de la vie, en tant que réflexion sur l'ensemble des conditions d'existence et d'activité de l'homme sur la terre. Elle s'est constituée en un enseignement de plus en plus traditionnel. Elle a aussi cherché à pénétrer au-delà des phénomènes naturels pour découvrir les forces occultes de la nature, les êtres divins et surtout en Égypte, les destinées d'outre-tombe. Elle a pris ainsi un aspect de religion et de magie avec une initiation mystérieuse. Le mouvement sapientiel fut l'œuvre des scribes et des conseillers royaux. Il exerça une grande influence sur les peuples de l'Orient et dans tout le cours de leur histoire. Les enseignements formaient des matières d'études dans les écoles et c'est ainsi qu'ils vont conserver, continuellement augmenter et nous allons garder, nous, de très nombreux précieux documents. Alors notre travail consistera à mieux comprendre le mystère de la sagesse pour en vivre et c'est pour cela que j'ai essayé de passer par considérer divers sujets. Alors je vais vous donner la feuille de tout ce que nous étudierons ou nous réfléchirons. Alors demain matin, nous verrons la sagesse dans l'Ancien Testament et l'après-midi dans le Nouveau Testament. Comme ça, on aura un départ qui sera dans un biblique. Alors le matin, ce sera diverses attitudes de sagesse. Au fur et à mesure, je vous ai mis quand même les paragraphes. Comme ça, ça permettra mieux de suivre. Le Christ et la sagesse. Alors on fera le bilan de l'Ancien Testament et puis on essaiera de réfléchir sur Jésus qui est la sagesse de Dieu, comment se manifeste la sagesse dans le Christ. Ensuite c'est Saint Paul dans le Colossiens et puis on verra la lecture de la tradition. Bon voilà pour vendredi. Pour samedi, alors à mon avis c'est ça le centre de toute notre retraite. C'est la sagesse de la croix. Tout le, disons, l'Ancien Testament, et même avec la venue du Seigneur Jésus, nous prépare. Mais pour nous, c'est comment vivre cette sagesse de la croix, qui est un mystère d'amour, comment elle s'est manifestée dans l'origine, comment elle est salue en Christ, comment le disciple doit porter sa croix, et divers témoignages. Vous voyez, ça c'est le cœur vraiment de notre retraite, parce que c'est ça qui peut nous parler le plus, quoi. Puis ensuite, la sagesse universelle. Alors j'ai voulu passer, parce que ça m'a donné beaucoup de travail, tout ça. Mais je me suis dit, c'est bien de sortir un peu aussi de nous pour envisager comment cette sagesse a été vécue dès les origines. Alors, en Sumer, qui a été la première grande civilisation, en Sumer. Ensuite, la sagesse grecque. Et puis, je vous donnerai une lecture de Socrate. C'est un être tellement extraordinaire qu'on ne peut pas passer à la sagesse sans saluer Socrate, sa vie, c'est magnifique. Et puis alors, il y a la sagesse égyptienne. Alors la sagesse égyptienne, ben vous pourrez trouver ça parce que là, c'est des documents, c'est une bibliothèque. Mais moi, ce qui m'a frappé le plus dans tout ce que j'ai pu lire, c'est toute cette sagesse des morts, le livre des morts, comment ce livre a été écrit. Qu'est-ce qu'il comporte? Ça, on ne pourra pas le voir, parce que ça demanderait une étude de plusieurs heures. Mais enfin, veut savoir que quand même, ça existe, quoi, toucher un petit peu à ça. Alors ça, c'est la sagesse universelle. Et puis, dimanche matin, le matin, on aura la sagesse du ciel et de la terre. Alors ça, c'est quelque chose de très différent. Et alors, ça rejoindra après Jean. C'est quelque chose de très différent, c'est comment l'univers, et dans notre perception que nous faisons tous les jours de l'univers, comment nous voyons qu'elle est pénétrée de la sagesse divine, que les choses les plus simples, les plus petites, jusqu'aux petites bestioles qui passent, jusqu'au vent qui souffle, jusqu'à la montagne, que tout, en fait, est l'expression, porte en elle-même une sagesse. Alors, quelle est cette sagesse incluse dans un rocher? Voilà. Parfois, un rocher parle. Vous savez que Teilhard de Chardin, c'est parce qu'il a vu un morceau de fer. Et à partir de là, c'était son intuition. Alors, il y a donc une sagesse du ciel et de la terre. Et alors, il y a un très grand témoignage, là. Alors on va sortir du monde catholique pour le monde orthodoxe, le père Bulgakov, qui a écrit un livre sur la sagesse, mais qui est très difficile, et puis je peux pas vous... Mais en sortant, ce qu'on peut en sortir, quoi. Et c'est l'univers qui révèle la sagesse. Ensuite, l'Église, dans le mystère de la sagesse. L'Église elle-même est l'expression de la sagesse. Marie est la beauté sophianique. Et la sagesse dans la Trinité, alors là, c'est comment chaque personne de la Trinité intègre et exprime la sagesse. Et dimanche après-midi, alors nous aurons l'icône de la sagesse, la capture du mystère de la beauté par Jean Bonavita.